J'aime pas lire. J'aime pas lire à lire. J'aime pas lire.
Lire.
J'aime pas lire. J'aime pas lire.
Bonsoir, bienvenue dans J'aime pas lire, votre émission de littérature, de musique, mais pas que. Ce soir, nous allons discuter, lire beaucoup et écouter des choix sonores qui sont ceux de Laurence, que nous avions déjà reçu il y a quelques mois à ce micro. Laurence de l'Orchestre de Lecteuris. Bonsoir.
Et bonsoir.
Bienvenue à nouveau.
Merci.
On vous a concocté un petit programme pour ce J'aime pas lire sur Radio Canu 102.2 FM, la plus rebelle des radios, je le rappelle. C'est l'avant-dernière émission et on va vous bichonner les oreilles. Soyez attentifs. Let's go. De quoi on parle ce soir ?
Alors, de quoi on parle ? Moi, j'avais envie qu'on fasse un petit peu la jonction avec le dernier texte qui avait été lu à l'émission d'octobre.
C'était en octobre.
C'était un texte de Claude Cahun. Et ce texte, en fait, Claude Cahun répondait à une question qui était « Pour qui écrivez-vous ? » Et elle commence déjà par dire que la question est quand même relativement mal posée.
Elle l'est.
Et puis après, elle va passer un peu de temps à expliquer pourquoi elle considère qu'il est tout à fait dérisoire, malvenu, de chercher à écrire pour quelqu'un ou pour un public. Et elle va finir en disant qu'elle souhaite écrire contre elle-même. Et j'avais envie de rapporter un petit peu cette idée à la question de la lecture. Et de nous demander d'une certaine manière dans quelle mesure ça ne serait pas intéressant de lire parfois contre soi. C'est-à-dire de lire des choses non complaisantes pour soi-même ou des choses un peu dérangeantes.
Il m'est arrivé personnellement de lire des choses dérangeantes. Il nous est tous arrivé en tant que lectrice et lecteur de lire des choses dérangeantes. Certaines que nous ne pouvons plus du tout envisager de lire, de continuer, d'aller jusqu'au bout. Et pour d'autres, nous persuadons que nous les lirons à l'avenir, plus tard, peut-être plus grand. Et pourtant, un malaise intellectuel ou une forme de Madeleine de Proust, les raisons sont nombreuses, nous fait ressentir un éloignement, un choc parfois même de lecture. Moi, j'ai eu ça avec Kafka. Et je vais vous lire un petit passage qu'on retrouve dans Une histoire de la lecture de Alberto Manguel au sujet de Kafka. Alberto Manguel, entre guillemets. Il me semble d'ailleurs, écrivait Kafka en 1904 à son ami Oscar Pollack, qu'on ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un bon coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? Pour qu'il nous rende heureux, comme tu l'écris ? Mon Dieu, nous serions tout aussi heureux si nous n'avions pas de livres, et des livres qui nous rendent heureux, nous pourrions, à la rigueur, les écrire nous-mêmes. En revanche, nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur, dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes, comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts loin de tous les hommes, comme un suicide. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous, Voilà ce que je crois. Fermez les guillemets.
Qui brise la mer gelée en nous. Alors, moi, je trouve ça toujours assez étonnant parce que là, finalement, en lisant ce passage, il n'est pas dit que nous encouragions à aller lire Kafka. Dans la mesure où peut-être on peut trouver qu'on prend déjà suffisamment de coups sur la tête, qu'on n'a pas envie d'en prendre en plus en lisant. Bon, mais évidemment là, c'est un coup de poing qui peut être tout à fait aussi salvateur hein, pour des questions d'émancipation, par exemple.
Et d'émancipation intellectuelle, politique.
D'une certaine manière, transformer des choses, ça se fait toujours dans un mouvement qui a finalement une forme de brutalité, ou qui est en tout cas... qui peut être inconfortable. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que là, on est dans la correspondance de Kafka. Il écrit à un proche. Et les textes de Kafka, les nouvelles et ses romans, sont tout à fait différents. Là, on est presque avec... Il est pas loin de l'exaltation dans ce court extrait. Mais dans ses autres textes, les nouvelles, les romans, il utilise une langue beaucoup plus ordinaire, absolument pas élitiste. Hein, c'est une langue qui est assez... je me mets un petit peu plus en face du micro.
Merci.
C'est une langue qui peut être déroutante par sa manière plutôt décollée d'une réalité. Et finalement, tout en écrivant dans cette langue assez ordinaire, de parvenir à créer une forme d'intensité. Et c'est peut-être ça qui peut paraître relativement dérangeant. Mais c'est aussi cette manière de décoller en permanence du réel. C'est-à-dire de s'attacher à des choses qui sont celles vraiment de la vie de tous les jours. Hein. Souvent dans ces nouvelles, en tout cas ces nouvelles que je connais mieux que ces romans, on part souvent de choses d'un intérieur, de la description d'une personne, d'un geste, d'un mouvement, d'une rencontre. Et les choses se décollent assez rapidement, en fait. Hein. Il prend peu de... Il nous avertit peu, en fait. Hein. On rentre immédiatement voilà, dans cette espèce de décollement. Et c'est ça qui peut paraître déroutant. Et d'une certaine manière, je me retrouve assez... dans cette image de mer gelée brisée en nous à la lecture de Kafka. Parce que, si on pousse un peu l'image, il me semble qu'il arrive à faire remonter quelque chose effectivement à la surface, qu'on sent en nous, peut-être de manière un peu intuitive, qui a à voir avec cette chose curieuse qui est le fait de penser, hein, tout simplement.
L'angoisse, parfois.
D'être en lien avec le langage. C'est finalement une chose assez curieuse. Quand on commence à l'interroger. Et lui, finalement, en utilisant le langage, j'ai l'impression que, en tout cas, c'était peut-être une de ses quêtes, hein, d'arriver justement à décoller, voilà, en utilisant cette matière insatisfaisante hein, que sont les mots, d'arriver à provoquer comme ça des espèces de failles, de créer des espaces dans lesquels, finalement, en tout cas, moi, c'est cette sensation que j'ai. En tant que lectrice, j'ai pas mal de place, en fait, en réalité. Voilà.
J'écris et je lis contre moi.
L'idée, là, aujourd'hui aussi, enfin, ce soir, c'était de continuer un petit peu ce qu'on avait commencé dans la première émission, qui était autour de cette question, qu'est-ce que lire ? Et finalement, l'idée, oui, c'était d'aborder, hein, parce qu'il y a en paysage toujours cette histoire de l'orchestre de lecteurs et de lectrices, la question de la lecture à voix haute. Alors, la lecture à voix haute, c'est une pratique qui est très plébiscitée hein, ces dernières années.
On s'en réjouit.
Il y a une journée mondiale de la lecture à voix haute, il y a des concours, ça a été même déclaré. C'était pas exactement le terme, mais comme une sorte de cause éducative. Il fallait en proposer partout dans les écoles. Je sais plus si c'était en 2021 ou 2022. Bref, peu importe. Donc en fait, c'était comme une espèce de, voilà, on redécouvrait hein, la question de la lecture à voix haute. Et je dis bien on redécouvrait. Parce que finalement, à l'échelle de l'histoire humaine, eh bien, peut-être qu'au départ, c'était comme ça qu'on pratiquait la lecture. Et là, on a pris quelques extraits, toujours dans Albert Camus, une histoire de la lecture. Et dans le chapitre qui s'appelle « Lire en silence ». Alors, juste pour situer un tout petit peu, puisque là, il va citer des personnes hein, qui ont vécu donc, au IVe siècle, hein, après J.C. Donc, on va avoir Ambroise. Hein, Ambroise, c'était un évêque était visiblement assez populaire, qui est important, qui a joué un rôle très, très important dans la fondation de l'Église d'Occident. Et une autre personnalité qui va apparaître dans le texte, c'est Augustin. Saint Augustin, donc le philosophe, hein, qui est peut-être plus connu que Ambroise. Donc Saint Ambroise et Saint Augustin, parce que tous les deux ont été canonisés.
Et là, ils discutent.
Là, bah, pas tout à fait. C'est ce qu'on va voir. Ambroise était un lecteur extraordinaire. Quand il lisait, raconte Augustin, ses yeux parcouraient la page et son cœur examinait la signification. Mais sa voix restait muette et sa langue immobile. N'importe qui pouvait l'approcher librement et les visiteurs n'étaient en général pas annoncés. Si bien que souvent, lorsque nous venions lui rendre visite, nous le trouvions occupé à lire ainsi en silence, car il ne lisait jamais à haute voix. Les yeux qui parcourent la page, la langue silencieuse. C'est ainsi exactement que je décrirais un lecteur d'aujourd'hui, assis avec un livre, dans un café en face de l'église Saint-Ambroise à Milan, en train de lire peut-être les confessions de Saint-Augustin. Tel Ambroise, le lecteur est sourd et aveugle au monde, à la foule des passants, aux façades crayeuses et ocres des immeubles. Personne ne paraît remarquer un lecteur concentré, absorbé, replié sur lui-même. Le lecteur est devenu banal. À Augustin, cependant, une telle façon de lire semblait suffisamment étrange pour qu'il la relatât dans ses confessions. On en déduira que cette méthode de lecture, cet examen silencieux de la page, était en son temps un usage peu ordinaire, et que la lecture normale se faisait à haute voix. Même si des cas de lecture silencieuse peuvent être recensés à des dates antérieures, ce n'est pas avant le Xe siècle que cette façon de lire deviendra habituelle en Occident.
Le psychologue américain Julian Jaynes, dans une étude où il discutait des origines de la conscience, soutenait que le cerveau biparti, où l'un des hémisphères devient spécialisé dans la lecture silencieuse, correspond à un développement tardif de l'évolution de l'espèce humaine et que le processus par lequel cette fonction se développe est encore en train d'évoluer. Il suggérait qu'au premier temps de la lecture, la perception était sans doute plus auditive que visuelle. Lire, pendant le troisième millénaire avant notre ère, revenait donc peut-être à entendre les cunéiformes, c'est-à-dire à imaginer le discours de façon hallucinatoire, en regardant les signes qui le symbolisent, plutôt qu'à reconnaître visuellement les syllabes de la façon qui est la nôtre. Cette hallucination auditive peut avoir également prévalu à l'époque d'Augustin, quand les mots sur la page n'attendaient pas pour devenir des sons, l'instant où l'œil les percevait. Ils étaient des sons. L'enfant qui chantait le refrain révélateur dans le jardin voisin de celui d'Augustin avait certainement appris, comme Augustin avant lui, qu'idées, descriptions, histoires vraies ou inventées, tout ce que le cerveau pouvait traiter possédait une réalité physique sonore. Et il n'était que logique que ces sonorités, représentées sur la tablette, le rouleau ou le manuscrit, fussent proférées par la langue après avoir été reconnues par l'œil. Jusqu'à une période avancée du Moyen-Âge, les auteurs supposaient que leurs lecteurs verraient moins le texte qu'ils ne l'entendraient, et eux-mêmes prononçaient leurs phrases à haute voix tout en les composant. Les gens qui savaient lire étaient relativement rares, les lectures publiques étaient courantes, et les textes médiévaux invitent souvent l'assistance à prêter l'oreille à un conte. Il se peut qu'un écho ancestral de ces pratiques de lecture persiste dans certaines de nos expressions, comme lorsque nous disons « un tel parle de cela », au sens de « un tel a écrit ce propos » ou « ce texte sonne mal », au sens de « il n'est pas bien écrit » ou encore lorsqu'on évoque la voix d'un auteur.
Language begins in joy. Today I saw my publisher. He said to me, all the phenomena in the world are just signs for other truths. Our job as humans is to find out what each thing represents. I think he was talking about my writing. One of the truths, he continued, of human existence is a malignancy. Malignant because it's real and we can't understand it. I hate this truth, which manifests itself as the fact that human life is suffering. People have and do live in pain. He pounded his fist against the table until he bled in order to prove this point. I won't accept this. Pound. That this is true. Pound. I will fight against what really is. How do you do that? In the same way you females are fighting against male hegemony. In the same way. Right now either a female dies of exhaustion because she can't be a male and a female live without love. Or else she's still in prison. Only now she knows she's in prison. Fighting against what's unchanging. Are you with me, boys? Are you gonna fight with me? Down to the death, the dungeon of existence, to fight for our own impossible possibilities, more and more, breaking into joy. Yeah, yay! Our blood was boiling with his blood. My scarf fell over my bad eye. Drink, raised bottle. Drink the wine that is the only blood we can drink until we halt this flow of cannibalism, this greed and diarrhea that's now cursing through our world. Help. Help. Captain. Second mate there to
Alors, bah, là, on évoquait la voix d'un auteur. Donc, on vient d'entendre Cathy Hacker.
Ouais. Que tu m'as fait découvrir.
Ouais.
Et que tu fais découvrir, je pense, à beaucoup de nos auditrices et auditeurs.
C'est possible, oui, c'est possible. Alors, Cathy Hacker, c'est une poète, performeuse, essayiste, romancière, féministe. Dans les années 70, 80, 90, elle fait partie des figures de la scène, de cette scène new-yorkaise, considérée comme une scène, on va dire, pour le dire rapidement, underground. Elle est aussi, elle a aussi une filiation punk dans ses modes d'expression. Elle commence à être un peu publiée. Il y a quelques textes d'elle qui commencent à être un petit peu publiés, traduits surtout.
Traduits, oui.
Parce qu'on peut les trouver en anglais, enfin en états-unien. Mais en français, voilà, ça commence un petit peu à venir. Voilà, et donc là, moi, ce qui peut m'intéresser, c'est bon, elle avait une forme évidemment de radicalité. C'est une personnalité dont je comprends qu'elle est assez aussi controversée. On l'a accusée de plagiat parce qu'elle reprenait volontiers aussi des extraits d'auteurs qu'elle n'hésitait pas à manipuler et à transformer. Mais elle le faisait ouvertement. Hein, donc, c'est peut-être pas un plagiat pour. Je veux dire, capitaliser
voilà.
Dessus. Voilà. Mais enfin, voilà. Elle est assez controversée. Mais c'était aussi une manière pour elle de se ressaisir. Dans ce que je comprends aussi d'une littérature qui était essentiellement à l'avantage d'un homme blanc triomphant, y compris où les femmes auteurs avaient aussi beaucoup de mal à se faire une place. Donc je pense qu'en se saisissant aussi de ses écrits, elle venait elle-même probablement rectifier un certain nombre de choses. Voilà.
La correction.
Bon, et aussi ce qui pouvait m'intéresser, c'était finalement, bon, on a l'habitude hein, d'entendre des chansons, de la musique avec des langues étrangères, hein, ça pose assez peu de problèmes finalement. Des lectures ou des manières de dire dans des langues étrangères sont peut-être un peu moins courantes, mais aussi de sentir justement que la question qu'est-ce qui se passe, hein, moi j'ai pas de réponse sur ces questions-là quand on lit un texte à voix haute. Là en l'occurrence, bon, ça dépend évidemment de sa relation à l'anglais, hein, où on en est avec ça. Même si on le parle correctement, je pense que c'est pas aisé à comprendre parce que là elle est aussi dans un travail de la langue assez libre. Mais en tout cas, la question justement de la compréhension et du rapport à la langue se déplace là, hein, aussi avec une langue étrangère, de voir comment on peut être pris aussi dans un phrasé, hein, et peut-être entendre mieux finalement aussi ce que c'est que la question du phrasé. De dire un texte aussi quand on est dans une langue étrangère, parce que quand on est dans une langue qui est la nôtre, on est envahi tout de suite immédiatement par la nécessité de saisir, hein,
un sens,
des choses et de se les représenter immédiatement, hein, voilà. Alors que là le sens se décale, il se met ailleurs, hein, dans cette question là et que peut-être on entend mieux aussi un travail de la voix au texte, donc ça m'intéressait aussi pour ça.
On revient à une histoire de la lecture.
Eh ouais. Alors avec la, on continue. Alors avec la suite, un autre extrait donc de ce chapitre sur la lecture silencieuse d'Alberto Manguel.
On t'écoute.
Lire à haute voix en présence d'une autre personne impliquait une lecture partagée, délibérément ou non. Pour Ambroise, lire avait été un acte solitaire. Peut-être craignait-il, s'il lisait à haute voix, songeait Augustin, qu'un passage difficile chez l'auteur qu'il lisait ne suscita une question dans l'esprit d'un auditeur attentif et qu'il ne dut alors en expliquer la signification ou même discuter de certains des points les plus abstrus. Mais grâce à la lecture silencieuse, le lecteur put enfin établir une relation illimitée avec le livre et les mots. Ceux-ci n'avaient plus besoin d'occuper le temps nécessaire pour les prononcer. Ils pouvaient exister dans un espace intérieur, lu avec emportement ou à peine commencé, déchiffré complètement ou dit à moitié, tandis que les pensées du lecteur les inspectaient à loisir et découvraient en eux des notions nouvelles, ce qui permettait des comparaisons avec la mémoire ou d'autres livres laissés ouverts pour consultation simultanée. Le lecteur avait le temps de considérer et de reconsidérer les précieux mots dont les sonorités, il le savait désormais, pouvaient résonner au-dedans aussi bien qu'au dehors. Et le texte lui-même, protégé des tiers par sa couverture, devenait la propriété privée du lecteur, sa connaissance intime, que ce fût dans la studieuse salle d'écriture, sur la place du marché ou chez lui. Cette nouvelle tendance inspirait de la méfiance à quelques dogmatiques. Dans leur esprit, la lecture silencieuse autorisait la rêverie, la dangereuse paresse, ce péché mortel, le fléau qui dévaste à midi. Mais avec la lecture silencieuse apparaissait un nouveau danger que les pères de l'Église n'avaient pas prévu. Un livre qu'on peut lire en privé, en y réfléchissant au fur et à mesure que les yeux découvrent le sens des mots, n'est plus sujet à clarification immédiate, aux directives, condamnations ou censure d'un auditeur. La lecture silencieuse autorise une communication sans témoin entre le livre et son lecteur. Et comme l'a si joliment dit Augustin, le rafraîchissement personnel des idées.
10 ans auparavant, le théologien romain Sylvester Prierias avait affirmé que le livre sur lequel était fondée l'Église devait demeurer un mystère, interprété sous la seule autorité du pape. Les hérétiques, pour leur part, maintenaient que les gens ont le droit de lire pour eux-mêmes la parole de Dieu, sans témoin ni intermédiaire. Bien des siècles plus tard, au-delà d'une mer qu'Augustin eut située aux limites de la terre, l'écrivain américain Ralph Waldo Emerson, qui devait sa foi à ses anciens protestataires, mettait à profit l'art dont le saint s'était tant étonné. À l'église, pendant les longs sermons, souvent ennuyeux, auxquels le sentiment de sa responsabilité sociale lui imposait d'assister, il lisait en silence les pensées de Pascal. Et le soir,
à Concorde, dans sa chambre glacée, emmitouflé de couvertures jusqu'au menton, il se lisait les dialogues de Platon. Il associa à jamais Platon et l'odeur de la laine, notait un historien. Tout en estimant qu'il y avait trop de livres à lire et que les lecteurs devraient mettre leurs trouvailles en commun en se rendant compte mutuellement de l'essentiel de leurs études, Emerson considérait la lecture d'un livre comme une activité privée et solitaire. « Tous ces livres », écrivit-il en dressant une liste de textes sacrés, qui comprenaient les Upanishads et les pensées, « sont l'expression majestueuse de la conscience universelle et servent mieux nos buts quotidiens que l'almanach de cette année ou le journal de ce jour. Mais ils sont destinés au cabinet de travail et on doit les lire à genoux. Leurs communications ne doivent pas être données ni reçues du bout des lèvres et de la langue, mais la joue empourprée, empourprée et le cœur battant, en silence. » Quel texte ?
Et oui, là on voit bien effectivement le rapport d'un seul coup avec cette société où peu de gens savaient lire, que finalement savoir lire était d'un pouvoir considérable. Et que finalement ce qu'on a appelé donc les hérétiques, hein, donc avec notamment Luther, hein, et là c'est dit cette question que en fait ça suffit d'avoir des intermédiaires entre Dieu et nous, d'avoir des personnes qui nous disent ce qu'il faut qu'on ressente vis-à-vis de cette question, mais d'avoir accès direct au texte. Donc finalement Luther, qui pour bien des aspects n'est pas un révolutionnaire comme on l'entend dans certaines peut-être parties
ni un rigolo
en tout cas a pu mine de rien aussi encourager les personnes à apprendre à lire, ne serait-ce que pour avoir accès directement
au texte sacré,
au texte, exactement. Et que là effectivement on voit bien que une forme de lecture clandestine, enfin dans la lecture silencieuse il y a une clandestinité qui s'opère. Il y a quelque chose où effectivement on devient aussi un peu auteur, puisque enfin si on pense à cette notion que finalement lire c'est un peu réécrire, hein, puisqu'on est on interprète, on devient responsable aussi de notre interprétation, donc d'une certaine manière on participe, hein, dans la vapeur de la lecture à l'écriture du texte, hein. Ça se fait aussi avec nous, et bien ça échappe effectivement, ça échappe au pouvoir, ça échappe au dogme, ça échappe à certaines formes de morale qui sont celles qu'on souhaite voir suivies, et ça permet aussi d'échapper à des formes effectivement de censure et de se retrouver directement face à des idées. Et d'avoir le temps aussi de se demander ce qu'on en pense.
Et de façon plus, peut-être plus intime, justement, c'est Mengel l'aborde dans le livre Une histoire de la lecture. On avait déjà pu en parler d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de la formation de l'individu. L'accès à la lecture, c'est l'accès à sa propre intimité. C'est une réflexion qu'il établit en se rappelant être enfant dans la grande bibliothèque de son père, à Buenos Aires, de lire des mots avec une charge qu'il estimait érotique dans le dictionnaire. Et quand son père rentrait travailler, ou voir ce qui se passait dans la bibliothèque, il avait le pouvoir de refermer le livre, le dictionnaire, et de ne pas dire ce qu'il était en train de lire, et à quoi il pensait. Et que c'était selon lui, un des premiers apprentissages de l'intime.
Oui, bah c'est effectivement, ça ne regarde que lui.
Il ça n'a ne
pas,
regarde
voilà, que la lecture, effectivement, dans ce... Mais on peut rapporter ça, parce que là, on parle de la lecture. Moi, j'ai toujours aussi en tête de bien préciser qu'on peut ne pas lire et que plein d'autres choses de ce type-là puissent nous arriver. Hein, voilà.
Bien c'est sûr, pas, ah oui, ce n'est pas excluant.
C'est pas perdu du tout. Ça, c'est vraiment important à chaque fois de le préciser. Là, on est vraiment dans ce mouvement, effectivement, ce rapport entre lecture silencieuse et lecture à voix haute. Et que là, il se joue effectivement quelque chose concernant l'appropriation des idées. Mais c'est aussi effectivement dans une activité où on aurait besoin On aurait besoin de personnes finalement et on n'a pas de compte à rendre. Et ça, c'est peut-être ce qu'il faut retenir globalement de l'idée, même au-delà de la lecture, de pouvoir faire des choses où on n'a pas de compte à rendre, quelle que soit la pratique en fait, à un moment donné, d'avoir un espace comme celui-là, pour pouvoir aussi dialoguer directement avec soi. Donc ça peut être la lecture, mais ça peut être plein d'autres pratiques, il me semble.
Évidemment.
Ce que j'avais aussi envie de... un des liens que je pouvais faire en rapport, hein, finalement, avec ce que je fais, ce que je propose avec cette dynamique de l'orchestre de lecteurs et de lectrices, c'est de sentir aussi comment, finalement, il y a des échos de cette ancienne lecture à voix haute qui viennent jusqu'à nous. Parce que finalement, il y avait des enjeux aussi, hein, puisque bon, peu de gens savaient lire, des gens lisaient donc des choses, donc c'était de différents ordres. Ça pouvait être des textes sacrés, des textes un peu moins sacrés, mais quand même, c'était très important, hein, cette question du sacré. Donc voilà, et donc il fallait absolument garder la main sur cette question-là. Sacré, ça veut dire c'est à part, donc c'est une chose qui ne peut pas être dans le commun, le quotidien. Donc on s'est mis à distinguer le sacré et du profane. Donc il y avait aussi bon dans ce jeu, voilà, de lecture à voix haute, il y avait des gens qui s'en sortaient mieux que d'autres, hein. Enfin, on pouvait considérer qu'ils étaient plus intéressant à écouter que d'autres. Donc il y a la question de l'éloquence, en fait, hein, finalement, des qualités oratoires, mais aussi la destination, c'était le prêche, hein, également. C'était prêcher quelque chose, faire passer un message, probablement à base de répétition aussi, hein, de répéter souvent des choses, des messages, pour que la société, finalement, réponde et se fabrique selon un ordre donné. Mais ça, je trouve que ce sont des choses qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans certaines pratiques de la lecture à voix haute, cette question de l'éloquence. Et on voit bien d'ailleurs la confusion, pour moi, qui est vraiment tout à fait dommageable, avec l'organisation des concours de lecture à voix haute, qui sont en fait des concours d'éloquence. Et on fait justement une confusion, c'est-à-dire on se met à lire des textes comme s'il fallait convaincre les gens, l'auditoire, de ce qu'on est en train de lire, ou peut-être les convaincre qu'on lit très bien, et que là, il me semble qu'on passe complètement à côté, en fait, de la question de rapport au langage, du rapport au texte. Voilà, il y a ça, donc on le sent bien, dans c'est quelque chose qui est un peu permanent, en fait, hein, c'est-à-dire il y aurait une posture, il y aurait une manière de mettre le ton, enfin... Voilà. Et puis aussi cette chose de vouloir absolument, quand on lit un texte, faire passer un message qui serait celui du texte. Et donc moi j'ai envie simplement de faire revaloir qu'on a plutôt intérêt à se demander, bah, effectivement, quel rapport on a nous-mêmes au texte, qu'est-ce que ça nous fait à nous-mêmes, à quoi ça nous sert finalement de lire à voix haute pour nous-mêmes, avant même de se demander et de vouloir le faire pour un public. Un peu comme Claude Cahun, finalement.
Ouais.
Ne pas chercher à vouloir lire pour des gens, mais déjà soi-même de voir qu'est-ce que ça nous fait, finalement, cette oralisation, cette hallucination auditive, si on va prendre un peu les idées. Qu'est-ce que ça nous fait à nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on en entend, effectivement? Et peut-être plutôt que de chercher à convaincre... d'une bonne pratique, de chercher à laisser de la place éventuellement aux personnes autour qui supposément écouteraient la chose. Voilà. Mais du coup, ça m'a frappé aussi dans le texte de voir comment, finalement, alors même qu'on pense que peut-être on a toujours lu, enfin que la lecture silencieuse tombe sous le sens, hein, et que finalement la lecture à voix haute sera arrivée par le théâtre. Par exemple. Eh bien non, en fait.
C'est l'inverse.
Oui, et ça, c'est toujours intéressant parce que finalement, ça fait reconsidérer ces pratiques respectives et justement les liens qu'il y a entre la lecture à voix haute et la question de la prise de parole. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait, hein. Donc voilà, j'ai donné un petit peu mon point de vue sur la chose, mais globalement, il me semble qu'il faut se demander ce qu'on va en faire, plutôt que de vouloir répondre à des conventions, encore une fois, extérieures, qui sont toujours, en fait, amenées comme des évidences, et souvent qui procèdent comme des impensés.
Hein, voir comme des injonctions.
Et voir aussi comme des injonctions, ouais, tout à fait.
Alors, d'injonctions, il va être peut-être question maintenant, celle de passer un merveilleux auteur, si tu es d'accord, que tu m'as fait découvrir, un auteur qui s'appelle Bohumil Rabal.
Ouais. Ah oui, oui, oui. Non, je pensais qu'on mettait la musique d'Iva Bitova avant. Mais non, mais c'est moi qui suis pas... Mais oui.
Tu voulais nous proposer un extrait de ce livre qui s'appelle Une trop bruyante solitude.
Oui.
Titre magnifique.
Oui, alors moi je le connais... Alors vraiment, je vais être vraiment tout à fait honnête. Je le connais très très mal, voire même si je disais... je ne l'ai pas lu en fait. Mais ce livre m'a été offert par mon amie Natacha.
On salue.
Merci beaucoup. Ouais. Et donc en cherchant des textes pour préparer l'émission... Je me suis souvenue de ce livre et j'ai bien fait.
Ouais.
J'ai bien fait. Donc Bohumil Rabal, donc Une trop bruyante solitude. Bohumil Rabal, il est tchèque. C'est alors pour le coup, j'en sais un tout petit peu quand même parce que c'est un auteur qui a eu à faire face au moment du printemps de Prague. Enfin, de la répression du printemps de Prague, qui a eu affaire à la censure, et donc qui a vu ses écrits, qui ont été diffusés par des réseaux qui contournaient la censure soviétique de l'époque, et donc qui a été lu, alors, pour le coup, lecture silencieuse, mais même lecture sous le manteau, quoi, comme on peut dire. Voilà, donc, c'est, alors vraiment, l'extrait, c'est le début, voilà, le livre commence... Exactement par ça.
On t'écoute.
Voilà 35 ans que je travaille dans le vieux papier et c'est toute ma love story. Voilà 35 ans que je presse des livres et du vieux papier. 35 ans que lentement je m'encrasse de lettres. Si bien que je ressemble aux encyclopédies dont pendant tout ce temps j'ai bien comprimé 3 tomes. Je suis une cruche pleine d'eau vive et d'eau morte. Je n'ai qu'à me baisser un peu pour qu'un flot de belles pensées se mette à couler de moi. Instruit malgré moi, je ne sais même pas distinguer les idées qui sont miennes de celles que j'ai lues. C'est ainsi que, pendant ces 35 ans, je me suis branchée au monde qui m'entoure. Car moi, lorsque je lis, je ne lis pas vraiment. Je ramasse du bec une belle phrase et je la suce comme un bonbon. Je la sirote comme un petit verre de liqueur, jusqu'à ce que l'idée se dissolve en moi comme l'alcool. Elle s'infiltre si lentement, qu'elle n'imbibe pas seulement mon cerveau et mon cœur. Elle pulse qu'un à un jusqu'aux racines de mes veines, jusqu'aux radicelles des capillaires. Et c'est comme ça qu'en un seul mois, je compresse bien 2 tonnes de livres. Mais pour trouver la force de faire mon travail, ce travail béni de Dieu, j'ai bu tant de bière pendant ces 35 ans qu'on pourrait en remplir une piscine olympique, tout un parc de bacs à carpes de Noël. Ainsi, bien malgré moi, je suis devenue sage. Je découvre maintenant que mon cerveau est fait d'idées travaillées à la presse mécanique, de paquets d'idées. Ma tête dont les cheveux se sont tous consumés, c'est la caverne d'Ali Baba. Et je sais qu'il devait être encore plus beau, les temps où toute pensée n'était inscrite que dans la mémoire des hommes. En ces temps-là, pour compresser des livres, il aurait fallu presser des têtes humaines. Mais même cela n'aurait servi à rien, parce que les véritables pensées viennent de l'extérieur. Elles sont là, posées près de vous comme une gamelle de nouilles. Et tous les cognats, tous les inquisiteurs du monde brûlent vainement les livres. Quand ces livres ont consigné quelque chose de valable, on entend encore leur rire silencieux au milieu des flammes. Parce qu'un vrai livre renvoie toujours ailleurs, hors de lui-même.
On va écouter... de la musique pour conclure et en même temps continuer la sensation de cette lecture. On écoute Iva Bitova et Pavel Fash. Je ne le prononce sans doute pas bien, je m'en excuse. Big Beat. Let's go. de retour au direct sur Radio Canu 102.2 FM. Une fin étonnante.
Oui, elle arrive d'un coup. Alors, il va bientôt. Alors, c'est pas fait exprès, hein, dans le choix, c'est tombé comme ça, elle est tchèque. Voilà, c'est un album que j'ai découvert il y a maintenant nombreuses années. Ça a été un peu. Voilà, ça fait partie de ces découvertes musicales qui. Ou toute une manière justement d'amener la voix, de la travailler. Donc tout l'album est de ce tonneau-là, avec des choses qui sont peut-être avec des morceaux aussi qui sont beaucoup plus longs, donc que j'ai pas choisi là pour l'émission, parce que c'était probablement un peu long. Mais vraiment voilà, elle, donc avec entre son violon, le travail qu'elle fait avec le batteur. Et donc voilà, on a ces trois voix, la percussion, la voix, sa voix, et puis le violon, et tout ce qui se passe, voilà, comment tout ça est mis en mouvement, comment ça circule. Ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup intéressé. Je trouvais que c'était, pour moi en tout cas, c'était vraiment une découverte à ce moment-là. Et en plus, aussi une voix avec une langue, pour le coup, bah, qui est moins habituelle aussi.
Merci pour la découverte. C'est toujours chouette de découvrir même ce qui. Et surtout quand on ne s'attendait pas à découvrir ça. Quand la découverte en elle-même contient une vraie surprise.
J'entends.
On a un petit problème avec les casques.
Ouais.
Aujourd'hui.
Oui. Alors, ouais, je m'entends, mais c'est un peu curieux.
Est-ce que c'est mieux ainsi ?
Écoute, ouais, c'est un peu, c'est vraiment tout au fond, enfin, tu vois. Ah, ouais.
Ah bah, un petit faux contact.
Faut que tu restes appuyé là. Ouais. C'est ça, du faux contact.
Nous sommes bel et bien au micro de Radio Canu 102.2 FM. Nous sommes le 6 juillet avec Laurence de l'Orchestre de Lecteurs et de Lectrices. Et nous continuons une réflexion que nous avions entamée au mois d'octobre. Autour de la lecture à voix haute.
De la lecture. Et là, justement, en parlant de lecture, on va faire une lecture à deux.
Une petite expérimentation.
Une petite expérience. Alors, il y a un texte de, ou du avant, comme ça.
Ouais.
Il va y avoir un texte de Christophe Tarkos.
Christophe Tarkos, oui.
Christophe Tarkos, poète, qui a beaucoup. Travaillé et dans les années 90, il n'a pas eu le temps d'aller plus loin parce qu'il est mort assez jeune. Voilà, moi, pour moi, c'est un poète qui vient, je vais le dire comme ça, régénérer quelque chose de l'ordre de la poésie-action, hein, qui avait commencé à se développer dans l'après-guerre. Voilà, et il apporte sa pierre à l'édifice, en fait, hein, dans ce mouvement-là, en fait, qu'on a appelé d'abord la poésie sonore, et puis après, on considérait que le terme était un peu redondant, hein, voilà, sur la pratique, mais de plutôt nommer ça poésie action, c'est-à-dire de vraiment essayer de faire sentir qu'il y avait une volonté de mouvement et de prise d'espace avec des mots. Voilà, donc Christophe Tarkos, c'est cette lignée-là. Et puis, alors, un texte de Anne Sexton. Donc là, on est avec une poète états-unienne, on va dire les années 60-70. Donc qui a aussi, hein, c'est pas un fait exprès, hein, on va croire que tous les poètes, effectivement, seraient un peu maudits, meurent tous très jeunes, mais bon, elle aussi, voilà. Je la trouve vraiment intéressante aussi, Anne Sexton, parce que elle s'est exprimée sur cette question d'avoir été vraiment victime du rêve américain en tant que femme, qu'elle a très mal supporté la direction qu'a pris sa vie quand elle était donc une jeune femme. Elle s'est retrouvée mariée dans un pavillon avec des enfants et ça n'allait absolument pas. Donc ça ne dit rien sur effectivement des troubles psychiques qu'elle pouvait avoir au préalable, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne l'a pas aidé du tout d'avoir cette vie-là. Voilà, bon, elle a passé du temps en hôpital psychiatrique et c'est là qu'elle a découvert l'écriture et qu'elle s'est mise à écrire et qu'elle a participé aussi, elle a pu quand même, elle a eu le temps aussi de participer à une scène poétique et d'être quand même, que sa voix soit entendue aussi de son vivant, qu'elle ait une certaine reconnaissance. Voilà, donc ses textes, elle, c'est pas comme Cathy Hacker, on les trouve, ils sont traduits et publiés en France. Voilà, c'est
Anne Sexton qu'il convient d'écrire, S-E-I-X-T-O-N.
Voilà, et puis peut-être qu'on le dit aussi parce que je ne sais pas si on reprend la parole après.
Oui, on reprendra la parole.
On reprend la parole après. Ok. Alors je démarre.
Oui. Démarrons cette lecture à deux voix.
La liste des mots qu'il faut fusionner donne une pâte molle. Tout le fait que
j'étais une bébé de glace,
que l'on dit,
je suis devenue bleu ciel.
De
mes larmes se sont changées en perles de verre. Ma bouche
la forme du
s'est figée pâte dans un hurlement muet.
Après la pâte,
ils disent que c'était un rêve, mais je me souviens de ce durcissement.
Quel sens se rend.
Ma sœur, à 6 ans,
retourner,
rêvait chaque nuit de ma mort.
Une boucle,
la bébé s'est transformée en glace. Quelqu'un l'a mise dans
elle
le réfrigérateur. Et elle était aussi dure qu'une sucette.
Elle ne se déforme pas puisqu'elle est une pâte. Elle peut prendre toutes les formes. Elle n'en reste pas moins sensée, pleine de sens.
Je me souviens de la puanteur du pâté de foie. La façon dont on m'a mise sur un plateau et placée entre la mayonnaise et le lard. La cadence du réfrigérateur a été dérangée. La bouteille de lait sifflait comme un serpent.
Et la tirait encore.
Les tomates vomissaient leurs tripes.
Mélangées de beaucoup comme elle
le était. Le caviar s'échangeait en lave.
Elle ne se casse pas.
Les piments s'embrassaient comme des cupidons.
De toutes les manières qu'elle est tirée et contorsionnée.
Je bougeais comme un homard. De plus en plus
elle
lentement.
Se dirige vers la fin.
L'air était ténu. L'air ne faisait pas l'affaire.
La substance.
J'étais à la fête des chiens. J'étais leur os à moelle. On m'avait placé dans leur niche comme une dinde fraîche.
Pour vouloir.
C'était le rêve de ma sœur.
On peut se déplacer.
Mais je me souviens de l'écartèlement. Je me souviens de l'odeur de lit de malade, de la sueur couvrant le sol, des yeux roses, des langues roses et des dents de ses ongles. On m'avait transporté comme Moïse et caché avec les pattes de 10 bulles terriers de Boston, 10 chiens enragés, bondissant comme d'énormes cafards.
La mère de la confiture.
Au début, ils m'ont lapé, aussi rugueuse que du papier de verre.
Et le mélange de ces.
Je suis devenue très propre.
Et pas de mots.
Puis mon bras a disparu, je me disloquais. Ils m'ont aimé jusqu'à mon départ.
Moi aussi, ils m'ont vendu pendant des siècles. Moi aussi. Moi aussi, j'ai été machine dans leurs usines. Moi aussi. Ils m'ont dit, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure quand ça me chantera. Ils m'ont dit, donne-moi ton corps, je te donnerai un os à ronger.
caché d'aspirine.
Ils m'ont dit donne-moi ton sang, je te donnerai un cachet d'aspirine.
Ou la fnac, ou la fnac, ou la fnac.
Ou la fnac naniing, ou la fnac naniing, ou la fnac
naniing. Ils m'ont crevé les yeux et ils m'ont raconté le film après. Ils m'ont mise dans une cage et ils m'ont dit tu voles bas après.
Ils m'ont écrasé et ils m'ont dit t'es une sale bête après.
Moi aussi, mon amour. C'est fini, mon amour. Nous voici, mon amour. Moi aussi, moi aussi, c'est fini.
Moi aussi. Tu nous présentes ce morceau, Laurence?
Ariski Belkacem, Brigitte Fontaine. Voilà, ouais. C'était pour moi évident.
Après la disparition d'Ariski.
D'Ariski, voilà.
Bien
de,
sûr.
De passer un morceau de... où on entend chanter, ce qui est relativement rare. Il y a quelques morceaux hein, où c'est le cas, mais enfin, c'est quand même, il était beaucoup plus discret à la voix
que Brigitte.
Que Brigitte ou que Higelin, avec lequel il a fait aussi beaucoup de choses. Voilà, moi je fais partie de ces. En tout cas, je. C'est Ariski.
Belkacem, Ariski.
Ariski, Belkacem et Fontaine sont pour moi voilà, des personnes qui ont aussi participé à déboutonner des corsets bien trop serrés et à prendre des libertés et à ne pas rendre de compte de la prise de ces libertés. Et ça, c'est quand même. Toujours très encourageant.
On a besoin de cet encouragement. Merci beaucoup, tu nous en as apporté avec les voix de ces choix de lecture et de ces choix, de ces propositions à les penser différemment. La semaine prochaine, ce sera la dernière émission de la saison et nous ne savons pas encore quand nous reviendrons car il a été décidé avec Razon, que je salue bien beaucoup ici en cabine, de faire une pause, un peu de temps sabbatique pour créer et pour se reposer et trouver l'inspiration. Voilà, merci. Donc la semaine prochaine, j'étais en train de vous dire que nous recevons l'artiste, le musicien Ista, qu'il convient d'écrire I-S-T-A-H. Et nous sommes très 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 impatients de le recevoir à ce micro. Vous trouverez les détails de ce qui a été lu et écouté ce soir en compagnie de Laurence, de l'orchestre, de lecteurs et de lectrices sur l'Instagram ou bien sur l'audioblog, car l'émission sera évidemment mise en ligne très prochainement, dans le courant de la semaine. Merci encore.
Merci Psychonautes, merci.
Razon, bonne soirée. Vous trouvez la suite de vos programmes avec Cannabis Circus, que nous saluons très fort également.